et qui m'a convié à votre rencontre. Je suis vraiment enchantée et honorée. Et donc, je vais vous parler du dialogue entre les arts, de l'interaction entre les arts. Et je me propose de faire une sorte de panorama un peu historique et chronologique. Donc, je vais commencer par la Grèce antique, n'ayez pas peur. Hein, ça me fait penser à une lecture de Chevillard où son personnage disait, Crabbe disait que face au succès public où il avait raconté sa vie, il décidait de recommencer face à l'engouement du public en commençant à partir de l'origine de l'homme d'après Darwin. Donc, je vais pas faire ça, je vous rassure. Voilà. Alors, donc le lien entre les arts, en fait, comme vous savez, il a toujours existé. Je vais donc commencer par ce premier exemple que je viens de citer, la pratique du théâtre dans la Grèce antique, donc Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, qui présentait évidemment un acteur porteur d'un texte devant un public, mais à ses pieds, sur l'aire ronde qu'on nomme orchestra, au bas des gradins également, se tenait le chœur avec son chef, le choreute, et là, il produisait de la musique, des chants et de la danse. Et l'ensemble formait un tout insécable. Donc ça veut bien dire que. Des formes d'art conjoints existent et que ce dialogue entre les arts existe évidemment depuis extrêmement longtemps. Alors en général, quand on pense au lien entre les arts, on pense plutôt à Richard Wagner, vous voyez, je fais un grand saut tout d'un coup, voilà, 19e, et à sa fameuse œuvre d'art totale. Donc là aussi, rien ne vient tout seul, et ne serait-ce qu'au 19e siècle et en Allemagne, il y a des précédents. Et je voudrais faire trois courtes citations pour vous le montrer. Par exemple, Goethe, en 1825, dans ses entretiens avec Eckermann, déclare, je cite, Au théâtre, vous trouvez la poésie, la peinture, le chant, l'art dramatique et bien d'autres choses encore. Lorsque tous ces artifices, toutes ces séductions de la jeunesse et de la beauté agissent d'un commun accord dans la même soirée, surtout quand c'est à un haut degré, il en résulte une fête qu'on ne peut comparer à aucune autre. Bon, 1825. Encore plus tôt, en 1803, Schiller, dans sa préface à la fiancée de Messine, écrit ceci: Une œuvre poétique doit se justifier par elle-même. Où les actes ne parlent point, les mots sont d'un pauvre secours. On pourrait donc laisser au cœur le soin de sa propre apologie, si le cœur était à même de se produire dans des conditions convenables. Malheureusement, une tragédie ne saurait se compléter qu'à l'aide de la représentation théâtrale. Le poète se contente de donner les mots, et pour les animer, il faut que la musique et la danse viennent s'y joindre. Donc vous voyez que cette idée de conjonction des arts apparaît évidemment assez tôt. Un dernier exemple de Novalis, cette fois, qui écrit « On ne devrait jamais voir sans musique des œuvres plastiques. » C'est un peu plus original. « On devrait toujours écouter la musique dans des salles joliment décorées. On ne devrait jamais jouir de la poésie sans qu'y soient jointes musique et décoration. » Voilà. Alors, enfin, dernier exemple, donc j'ai menti, encore un petit exemple. Quelque chose qui peut apparaître comme une simple anecdote amusante, mais qui est plus que cela. En 1830, le fameux peintre Friedrich avait été chargé de peindre, à la demande de la cour du tsar, des transparents à projeter à des enfants. Et il donne des indications très précises pour chaque image. Donc je cite, ces images devront être accompagnées de musique, la première avec chant et guitare, la seconde avec chant et harpe, la troisième avec harmonica, la quatrième avec une musique mugissante à entendre de loin. Donc évidemment, les conditions préconisées ne sont pas toujours très faciles à mettre en œuvre, mais en tout cas, ça montre que ces liens entre les arts apparaissent très tôt et de manière suivie. Alors pour en revenir à Wagner, je le suis dans le pont qu'il établit avec la Grèce antique, et c'est aussi c'est pour cette raison que je vous ai parlé 2 secondes de la Grèce antique, parce que la civilisation grecque lui apparaît comme un point d'aboutissement lumineux, comme une incarnation suprême et équilibrée du beau, et également comme un modèle qu'il s'agit non pas de répéter, mais dont il faut reprendre le fil pour le faire renaître au temps de Wagner. Voilà. Donc il écrit 3 grands textes que vous connaissez peut-être, dont un qui s'appelle « L'art et la révolution ». Alors c'est un titre qui commence à donner les premiers éléments de ce qu'on connaît de lui principalement, c'est-à-dire la fameuse œuvre d'art totale. Donc, l'art et la révolution, ça date de 1849, et c'est une époque où Wagner passait de pays en pays pour ne pas se faire arrêter, parce qu'il s'affirme communiste au sens utopique du mot. C'est aussi une rupture sur le plan esthétique, puisque, encore une fois, Wagner se tourne vers la Grèce, le miracle de la tragédie d'Eschyle, et en même temps, il célèbre la civilisation grecque et son harmonie. D'où son admiration pour l'union des arts, qu'il découvre ou imagine dans la Grèce antique, car il s'agit d'une Grèce mythique qui est à la fois lointaine, dans le temps, et proche, dans ses aspirations et sa sensibilité. Donc il est aussi très critique face à la façon dont l'opéra s'exerce à son époque, Et dans l'opéra, trois arts tentent de se faire une place, chacun pour soi, à son époque. Donc la musique, le poème, donc le livret en fait, et la danse. Mais le livret, pour lui, c'est une forme dégénérée du poème, et le ballet, une forme dégénérée de la danse. Et face à ce produit de dégénérescence, Wagner oppose une sorte d'art suprême, une œuvre d'art commune, où, se réunissant, les différents arts vont trouver le lieu de leur plein épanouissement. C'est l'union des trois T. Bon, alors, les trois T en allemand, puisqu'il est allemand, et moi, je ne parle pas allemand, mais je vais vous citer quand même les mots en question, avec un T en allemand, donc, dont il parle dans l'œuvre d'art de l'avenir, deuxième de ses textes, toujours de 1849. Donc, je cite, « Si la mode ou l'usage permettait de revenir à la véritable et authentique manière d'écrire et de prononcer Tischen pour Dichten, faire de la poésie, donc inventer, nous trouverions, dans les appellations réunies des trois arts humains primordiaux, Tanzkunst, art de la danse, Tonkunst, art des sons, et Tischkunst, l'art du poète, donc les fameux trois T, un beau groupe d'une signification frappante, des trois sœurs réunies en une trinité, c'est-à-dire une allitération parfaite, telle qu'elle fut à l'origine particulière à notre langue. Cette allitération serait significative surtout par le rang qu'elle donnerait à la Tischkunst, donc l'art du poète. Voilà. » Et donc cette dernière remarque fait entendre que si les trois arts sont unis indistinctement, ils ne sont pas forcément égaux. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est typique dans le projet de Wagner. Fidèle à sa métaphore, il place le poème au premier plan. La danse, qu'il admire pour l'art de la tragédie, qu'il déteste, hein, l'art de la tragédie, quand elle prend en tout cas la forme de ballet dans l'opéra, va peu à peu être détournée pour devenir essentiellement mimique. Mais comment se relie-t-il ? Il va encore le préciser, je cite, « Ainsi, se complétant mutuellement dans leur ronde alternée, les arts frères réunis se feront voir et valoir, tantôt tous ensemble, tantôt à deux, tantôt isolément, selon le besoin de l'action dramatique qui seule fait mesure et loi. Tantôt la pantomime plastique écoute les raisonnements sans passion de la pensée, tantôt la volonté de la pensée décidée s'épanchera dans l'expression immédiate du geste, tantôt la musique aura seule à exprimer le cours du sentiment, le frisson de l'émotion. Mais tantôt aussi, dans un enlacement commun, tous les trois élèveront la volonté du drame à l'acte direct, puissant. Car il y aura une chose pour eux tous, par les trois genres d'art réunis, une chose qu'ils devront vouloir pour devenir libres dans leur pouvoir, et cela, c'est précisément le drame. » Voilà. Donc le terme de drame, évidemment, il est amené à se développer, en tout cas au théâtre, de manière assez importante. Alors je n'insiste pas davantage sur Wagner, sinon pour préciser que, comme vous le savez sans doute, il a eu une influence extrêmement séminale sur la façon dont désormais on conçoit l'œuvre d'art, c'est-à-dire non plus compartimentée ou catégorisée, mais de façon beaucoup plus ouverte. On en voit deux développements quelques années plus tard, l'un connu, lié au symboliste, qui préconise un art synesthésique sur le modèle d'une sensation perceptive qui met en œuvre la totalité des sens, et on se souvient bien sûr du sonnet correspondance de Baudelaire, hein, la nature est un temple où deux vivants piliers laissent parfois sortir de confuses paroles, où il explique, par exemple, les parfums, les couleurs et les sons se répondent, hein, c'est ça. Bon. On se souvient aussi du théâtre d'art que crée Paul Fort, hein, alors qu'il a à peine 20 ans, qui voulait diffuser des parfums pendant la profération sur scène de textes à haute teneur poétique. Je ne sais pas si vous connaissez cet exemple-là. Ce théâtre d'art qui est né en 1890 et qui a fermé en 93, donc assez court, il est désigné, je cite, « premier essai de théâtre purement idéaliste » et où il entendait, je cite encore, « révéler toutes les pièces injouées et injouables ». Il s'inspire évidemment de la scène wagnérienne, hein, d'une scène totale. Il prétend à une synthèse totale des arts. Il fait se rencontrer les peintres nouveaux. À l'époque, c'est les nabis, hein, Bonnard, Maurice Denis, Serrusier, par exemple, les musiciens et les comédiens, pour illustrer des entités philosophiques, pour incarner des personnages surhumains. Et par exemple, dans la ferveur de l'expérimentation, il va donner un équivalent scénique de Bateau ivre de Rimbaud ou une adaptation du Cantique des Cantiques qu'il nomme une symphonie d'amour en 8 devises mystiques et 3 paraphrases où des jets de parfums répondant aux couleurs et aux sons étaient supposés évoquer les fastes du roi Salomon. Bon. Alors, l'autre développement moins connu que je voudrais citer, il vient du peintre Kandinsky, un des pères de l'abstraction, qui conçoit et expérimente en même temps cette abstraction, ce qui est déjà un tour de force. C'est-à-dire qu'il va travailler à un texte dès 1908, qui est publié en 1912, qui s'intitule « Du spirituel dans l'art en général et dans la peinture en particulier ». Et dès les premières pages, il va préconiser une forme d'œuvre supérieure qui serait le summum de l'art, selon lui, qu'il nomme œuvre d'art monumentale. Donc on n'est pas loin de l'œuvre d'art totale, vous voyez que l'influence quand même est suivie, mais c'est un petit peu singulier. Et surtout, il va situer cette œuvre d'art monumentale sans hésiter sur la Seine. Et il va produire lui-même une quinzaine de ce type nouveau d'œuvres qu'il nomme des compositions scéniques. Alors c'est important quand on sait que lui-même a établi une sorte de hiérarchie pour ses tableaux, où il distingue successivement des impressions, des improvisations et des compositions. Et la composition, comme vous pouvez le deviner, est l'état le plus élaboré possible de l'œuvre qu'il produit. Et en cela, par exemple, il était aussi un ami, il est devenu un ami de Schoenberg, qui est le père de la musique dodécaphonique, et pour qui aussi la composition était majeure. Hein, donc Schoenberg disait aussi, je ne produis pas une musique... qui est évidemment c'est pas exact, c'est ma musique n'est pas une composition à 12 tons, c'est une composition à 12 tons. Donc la question évidemment de l'accent est très importante, c'est la composition qui compte. Et vous voyez que pour Kandinsky, c'est également quelque chose de fondamental. Et donc Kandinsky va travailler à réunir peinture, musique et scène, non sans avoir tenté une expérimentation préalable, car Kandinsky considère sérieusement la matérialité de la scène. Donc donner comme lieu d'expression à la peinture un espace à trois dimensions, la confronter à la fois au mouvement et à la durée, ça revient à définir les enjeux de la scène pour proposer une forme qui serait assez peu spectacle, qui serait partie prenante d'un plein régime de représentation pour autant. Et justement, en 1908, pendant qu'il entreprend la rédaction de cet essai théorique, il va expérimenter avec le compositeur Thomas von Hartmann et avec le danseur Alexandre Sakharov la mise en œuvre conjointe de la peinture avec la musique et la danse. Alors cette expérience résonne particulièrement si on songe, et j'en parlerai un petit peu plus juste après, enfin pas juste après mais dans pas longtemps, si on pense à cette réunion célèbre qui date de l'été 1852 au Black Mountain College aux États-Unis de John Cage, Merce Cunningham et Robert Rauschenberg, où le compositeur, le chorégraphe et le peintre vont créer ensemble un happening inédit dans une création commune, non préméditée et en conséquence non reproductible devant un public, à l'écoute immédiate les uns des autres. L'épisode est connu. Alors, pour revenir encore à Kandinsky, voici comment il a présenté cette expérience inédite, ce travail tripartite, dans un article de 1921. Donc je cite, « J'ai moi-même mené une expérience à l'étranger avec un jeune musicien et un danseur. Le musicien choisissait parmi quelques-unes de mes aquarelles celle qui lui semblait la plus évidente musicalement. En l'absence du danseur, il jouait cette aquarelle. Puis venait le danseur, on lui jouait le morceau de musique et il le transposait en danse, devinant ensuite l'aquarelle qu'il avait dansée. » Voilà, donc on n'est pas dans la superposition, hein, mais on est dans la succession immédiate et où une œuvre suscite la création d'une autre et ainsi de suite. Bon. Alors on peut remarquer que par rapport donc à la référence postérieure de 1952, dont je vais évidemment aussi vous parler, les trois artistes ici ne créent pas une œuvre de manière simultanée, donc comme je l'ai dit, puisque chacun intervient à partir d'une œuvre déjà réalisée. Donc Kandinsky, il est contemporain des avant-gardes, les avant-gardes sont extrêmement prolifiques et extrêmement dynamiques, et parmi lesquelles on peut citer le futurisme qui dégage de nouveaux matériaux propices à la constitution d'œuvres d'art, dont le bruit. Hein, vous savez peut-être qu'il existe un traité du bruitisme, considéré comme un son, donc partie prenante de la musique. Évidemment, à l'époque, c'est tout à fait nouveau. Et c'est Luigi Russolo qui publie en 1913 « L'art des bruits ». Et il dénonce là l'épuisement des répertoires classiques et romantiques. Il prône le retour au son de la nature, au bruit des villes et des machines. Et le premier concert bruitiste est donné à Milan, le 21 avril 1914. D'autres vont suivre, qui rassemblent éclateurs, crépiteurs, bourdonneurs, strideurs. Et évidemment, ces bruitistes vont influencer directement Erik Satie, notamment dans son ballet Parade, dont je n'ai pas prévu de vous parler spécialement, mais bien entendu, qui prendrait toute sa place aussi ici, puisqu'on a quand même une influence. Alors Picasso, qui réalise dans Parade en 1917 le rideau de scène, les costumes et les décors, qui s'inspirent de l'esthétique cubiste, donc c'est évidemment intéressant. Et puis la musique de Satie, et le ballet, donc la danse, qui a une esthétique également totalement novatrice, donc évidemment qui fera scandale dans un premier temps. Bon, et donc le ballet Parade intègre notamment justement un moteur d'avion, une machine à écrire, enfin le bruit d'un moteur d'avion, d'une machine à écrire, etc. Et tout ceci annonce la musique concrète faite à partir de bruits enregistrés. Alors le dialogue entre les arts, bien sûr, est toujours vivant. Pour rester dans cette période, on peut évoquer, alors dans un premier temps, peut-être je vous le signale parce que ça c'est un exemple assez peu connu, c'est un roman d'un auteur et surtout critique d'art en réalité allemand qui s'appelle Karl Einstein, Karl et non pas... Alfred, voilà. Bon, Karl Einstein, qui a publié Bébuquin ou Les dilettantes du miracle. Et ce texte, Bébuquin ou Les dilettantes du miracle, c'est un texte tout à fait incroyable puisqu'il répond aussi à l'esthétique cubiste. Et quand on commence à le lire, donc on a effectivement des paragraphes ou à peine des paragraphes, mais disons des morceaux de texte à pans coupés, comme dans une peinture cubiste, et où, bien sûr, il n'y a pas de linéarité parfaite. Et donc, c'est évidemment extrêmement étrange et intéressant de lire ce texte. C'est vraiment, pour moi, une sorte d'apax. C'est un cas particulier. Voilà. On pourrait évoquer aussi un motif, finalement, ça a devenu un motif, qui est celui de la gradiva, que vous connaissez sans doute aussi, qui est très riche, puisqu'à l'origine, il s'agit d'une nouvelle de Jensen, et qui est publiée en 1903. Vous voyez, on est toujours dans cette même période, qui s'inspire d'un bas-relief latin, que va reprendre Freud pour en livrer une lecture psychanalytique qui va inaugurer le lien entre psychanalyse et littérature. Parce que normalement, je vous rappelle quand même que la psychanalyse est là pour analyser plutôt l'inconscient humain plutôt que celui des textes. Mais donc évidemment, avec cette analyse de la gradiva de Jensen, il va créer ce lien justement entre les outils de la psychanalyse et la littérature. Voilà. Et donc il met en lumière ce qu'il identifie comme les buts communs aux deux disciplines que sont justement la psychanalyse et la littérature. Alors, sur ce terrain-là, et ici ça peut nous intéresser quand même que, disons, la piste interprétative et la manière de lire des textes, évidemment, on a ce critique qui s'appelle Jean Bellemin-Noël, qui va reprendre cette voie en 1983, qu'il développe dans tout son travail. Il reprend formellement la lecture de Freud de la gradiva, il propose la sienne, et il va proposer également une nouvelle traduction de la nouvelle initiale. On trouve également des traces en peinture, puisque Salvatore Dalí s'en inspire, dont la gradiva trouve les ruines d'Anthropomorphos, ainsi qu'André Breton. Donc là, tout ça, c'est facile de retrouver ça sur Internet, si vous voulez regarder à quoi ressemblent les peintures de ces peintres, hein, à propos de la gradiva. Et puis, André Breton va baptiser une galerie surréaliste de son nom, justement. Évidemment, les surréalistes sont intéressés par cette figure porteuse de rêves, et donc exprimant l'inconscient sous une forme artistique. On peut aussi citer le fait que Barthes a consacré à la gradiva un chapitre de son livre Fragments d'un discours amoureux, et que au cinéma, vous avez en 1970 Giorgio Albertazzi qui lui consacre un film, ainsi que beaucoup plus tard et à la fin de sa carrière, Rob Grillet. Et pour lui, donc, la gradiva a été incarnée par Ariel Dombal. Voilà. Bon, là aussi, vous pouvez avoir des traces sur Internet. Donc, si vous avez la curiosité d'aller voir, vous pouvez évidemment jeter un coup d'œil. Cela dit, vous ne serez pas étonné de voir que dans ces films, et en particulier pour Rob Grillet, qu'on connaît quand même particulièrement bien, c'est évidemment son univers à lui qui transparaît. Donc, il se sert du motif, comme on fait tous, comme tous les créateurs font, pour projeter leur propre univers intérieur et leurs propres idées, leurs propres motifs sur cette matrice, si on veut dire. Voilà. Et donc on arrive au milieu du XXe siècle avec deux sources intéressantes pour l'art de la performance. D'abord en 1951, Jackson Pollock accepte d'être photographié et filmé par Hans Namuth pendant qu'il travaille. Là aussi peut-être c'est quelque chose que vous connaissez. Là aussi c'est quelque chose que vous pouvez voir sur Internet facilement, hein, donc je vous le cite simplement. Ces films sont vus au Japon par de jeunes artistes qui vont s'en inspirer, et notamment un pape de la performance qui est Nam June Paik, et qui, voyant ce film, va être vraiment profondément influencé par ce qu'il voit, développer son idée de la performance et s'expatrier aux États-Unis. Donc, par son intermédiaire, il y a une sorte d'aller-retour comme ça entre les États-Unis, le Japon, et retour aux États-Unis, où l'art de la performance, justement, va se développer. Voilà. Et ce qui est intéressant, donc, pour le dire en deux mots, pour ceux qui éventuellement ne savent pas de quoi je parle, Jackson Pollock travaille sur des grands formats au sol, et donc pratique la technique du dripping, c'est-à-dire qu'il plonge son pinceau dans des pots de peinture, et le dripping, ce sont les gouttes, évidemment, qui tombent à plat sur la toile par terre, et lui-même, puisqu'il s'agit de grands formats, fait le tour, et donc du coup tout son corps est en jeu dans l'acte de peindre, et donc ça crée une espèce de chorégraphie, et dont évidemment le film et aussi les photos se font les témoins. Et c'est évidemment une manière aussi de décloisonner les arts, involontaire de la part de Jackson Pollock, qui faisait juste ce qu'il voulait. Hein. Les artistes sont réputés pour créer les propres outils de leur création, ce dont ils ont besoin. Et ensuite, c'est évidemment l'axe de lecture, si vous voulez, c'est-à-dire la réception et la façon de voir le résultat qui va inséminer et produire évidemment de nouvelles idées. Bon, voilà. Et l'autre, justement, je l'ai évoqué tout à l'heure, donc l'autre, une autre source pour l'art de la performance, plus précisément ici, peut-être du happening, c'est cet event de l'été 1952 au Black Mountain College, qui réunit, comme je vous l'ai dit, John Cage, grand compositeur, très iconoclaste et novateur, Merce Cunningham, chorégraphe, danseur et chorégraphe, et Robert Rauschenberg, qui est donc un peintre. Contemporain des deux précédents. Donc le lieu lui-même, il est important. Peut-être je vais mettre un peu l'accent sur le lieu, puisque je dirais cet event, on le connaît. Le lieu, il est important, hein, le Black Mountain College, parce que c'est une université expérimentale qui a ouvert en 1933, qui a fermé ses portes en 1957 et qui a accueilli, pour commencer, disons, les artistes dégénérés allemands qui avaient été chassés par le régime nazi et qui avaient dû fermer les portes du Bauhaus, encore un haut lieu de réunion des arts, qui, disons, principalement a réconcilié les beaux-arts et les arts appliqués, c'est-à-dire qui a supprimé toute hiérarchie entre les artistes et les artisans d'art, en fait. Hein. Donc c'est évidemment un geste fort en soi. Alors le Black Mountain College présente une organisation démocratique et il s'inspire en cela des théories de John Dewey, que vous connaissez peut-être, qui a été, je dirais, qu'à moitié traduit, malheureusement, et tardivement en France. Et là, en l'occurrence, il s'agit de l'art comme expérience, où il s'agit de restaurer, je cite, cette continuité entre ces formes raffinées et plus intenses de l'expérience que sont les œuvres d'art et les actions, souffrances et événements quotidiens universellement reconnus comme des éléments constitutifs de l'expérience. Donc l'art étant intégré à la vie quotidienne comme une pratique d'exploration et de transformation pour préparer les étudiants à la résolution de problèmes dans un contexte interdisciplinaire. Alors bien sûr, ils vont suivre des cours alors, d'histoire, de physique, de philosophie, etc. Mais aussi de tissage, de maçonnerie, de cuisine. Vous voyez, donc là, on a un mélange tout à fait particulier. Et c'est vrai qu'il a c'est pour ça que c'est un lieu important. C'est parce que dans cette période de montée des totalitarismes, c'est un lieu particulièrement où s'exerce délibérément, un exercice démocratique. Voilà, qui s'inspire encore une fois de la pensée de John Dewey. Bon. Alors, dans les années 80, apparaissent sur les écrans de la scène. Et donc Béatrice Picon-Vallin va publier un livre et un recueil d'articles et d'entretiens sur le sujet à la pointe de la contemporanéité de la pratique artistique. Et donc on va voir au théâtre les plasticiens qui viennent travailler comme des metteurs en scène. Alors c'est le cas de Tadeusz Kantor par exemple, c'est le cas de Bob Wilson également, qui sont évidemment des grands noms aujourd'hui parmi les metteurs en scène pas contemporains, mais enfin disons... Bob Wilson est toujours vivant, cela dit, quand même. Et tout ceci va notamment bouleverser l'action dramatique, bouleverser les conceptions de l'espace et du temps. Le personnage même devient parfois une pure figure, plus plastique que psychologique. Et ces bouleversements ont bien sûr été préparés très en amont. Et il faudrait, par exemple, évoquer au début du XXe siècle Gertrude Stein, qui concevait des textes paysages, c'est-à-dire des textes non soumis à la linéarité d'une histoire qui se déroule, plutôt présentés comme une source de contemplation, comme devant un paysage, précisément. Donc ça, évidemment, c'est une donnée extrêmement importante. Et pour revenir donc au début du siècle à Kandinsky, que j'évoquais tout à l'heure, effectivement, Kandinsky est quelqu'un qui... a brisé nettement la linéarité d'une fable dramatique qui conçoit des personnages insensés, disons, à reproduire formellement, puisque ce sont des personnages qui changent d'échelle à vue, qui changent de couleur à vue, qui, dont la tête humanoïde devient une tête d'oiseau progressivement. Donc ce sont des choses qu'on peut imaginer au cinéma, mais formellement sur une scène, c'est compliqué. Voilà. Et donc le fait qu'on puisse concevoir des choses impossibles à réaliser, c'est quelque chose qui en soi, je dirais, est relativement admirable en termes de liberté dans la création, voilà, ne serait-ce que ça. Et donc, Gertrude Stein, à partir des années 20, elle se met à composer ce qu'elle appelle elle-même donc des pièces paysages, un concept dont elle explique l'origine au moment où elle admirait la campagne environnante de Bilinien dans l'Ain, où elle séjournait avec son amie Alice Toklas, En fait, c'était pendant la guerre, hein, elle était réfugiée. Et donc l'image du site perçu lui inspire réflexivement, au gré du déploiement des flux de conscience, un paysage dramatique et dramaturgique. Et ce sont des paysages qui reflètent sa vie intérieure et reflètent sa pensée intérieure. Et donc on est dans quelque chose qui est particulièrement intéressant, puisque c'est une manière d'exprimer vraiment l'intériorité de l'âme. Voilà, cela dit, c'était aussi un objectif principal de Kandinsky, hein, l'intériorité et la vibration de l'âme, hein, qu'il fallait transmettre. Bon, alors, ces nouveaux metteurs en scène, qui sont largement issus des plasticiens, vont redessiner le théâtre, et ce qui paraissait donc irréaliste donc, avec Kandinsky devient soudain beaucoup plus envisageable. Donc c'est par et pour ces nouveaux artistes qu'on va parler de théâtre post-dramatique dans les années 2000, pour évoquer une période justement qui va, des années 1970 à nos jours. Et entre-temps, la notion d'intermédialité est apparue dans l'ensemble des arts, pas seulement au théâtre, et pas d'abord au théâtre, sans doute parce que le post-dramatique occupait le terrain théorique. Ce que je veux dire, c'est que le théâtre, vous avez compris, est un terrain privilégié pour parler d'interaction entre les arts, bien sûr, je dirais par excellence. Et pour autant, cette notion d'intermédialité qui a donné lieu, donc je vais vous en parler maintenant, à de nombreuses théories, donc c'est une théorie extrêmement fournie et complexe, n'a pas pris corps ou racine pour commencer au théâtre. Et je pense probablement parce que dans la théorie, justement, d'abord le terrain a été occupé par la notion de post-dramatique qui a été âprement discutée au moment de son apparition, justement, dans les années 2000, au début des années 2000, notamment par ce fameux texte de Hans-Thies Lehmann qui s'appelle « Le théâtre post-dramatique », hein, et qui a été un coup de pied dans la fourmilière, d'une certaine manière. Et là... disons que les théoriciens aujourd'hui raccrochent un petit peu les choses, et notamment Jean-Marc Larue, qui est un Canadien, qui a repris, je dirais, le terrain théâtral pour se faire le champion, justement, des théories intermédiales. Voilà, l'intermédialité. Alors... Bon, donc avec cette intermédialité, on trouve soudain une pléthore donc, de théoriciens, souvent contradictoires les uns avec les autres, mais où on peut se frayer un chemin pour distinguer, pour simplifier un petit peu, quatre acceptions différentes du champ d'application de l'intermédialité et qui va générer quatre notions extrêmement importantes. Alors, l'intermédialité peut se donner comme objet d'étudier ce qui se joue entre les différents médias qui constituent cette forme singulière. Donc le point de vue, on le dit alors cette fois-ci synchronique, donc on est dans une contemporanéité. Et la notion clé ici à travailler, c'est celle de la coprésence. Donc la notion de coprésence, elle est une des quatre notions fondamentales. Évidemment, je vais revenir là-dessus. Là, pour l'instant, je cite simplement les quatre notions. Ensuite, l'intermédialité peut tenter de saisir la manière dont une forme singulière est liée à d'autres formes qui lui sont contemporaines ou antérieures. Alors le point de vue est alors diachronique, donc on traverse les périodes au contraire, donc la notion clé à travailler ici, c'est celle de transfert. Donc on parlait de coprésence, on peut parler aussi de transfert, je vais développer ça par la suite. On peut ensuite évoquer un certain degré d'autonomie des formes produites, et donc l'intermédialité, dans ce cas, peut se donner comme objet de comprendre ces dynamiques de distinction entre médias, et donc la notion clé, ce sera celle d'émergence. Donc tout ça paraît un peu théorique et peut-être sec, excusez-moi, mais je vais revenir et vous donner des exemples précis, hein, donc ça sera plus facile. Donc voilà, coprésence, transfert, émergence. Et enfin, si on envisage une mise en relation inscrite dans un milieu, donc les choses se compliquent encore un peu puisque ce sont des relations entre production culturelle qui créent elles-mêmes du lien, qu'il s'agit d'analyser comme constitutive du vivre ensemble. Et donc cette quatrième notion, c'est bien celle du milieu. Donc, coprésence, transfert, émergence et milieu. Hein, voilà, ce sont ces notions constitutives de la manière dont la notion a circulé, peut-être depuis à peu près justement les années 2000. Vous voyez que c'est très contemporain de ce que je nommais au théâtre, enfin, c'est pas moi qui le nomme d'ailleurs, au théâtre, le post-dramatique. C'est tout à fait, superposé. Voilà. Alors, la notion peut-être d'abord de coprésence. La coprésence permet d'analyser une forme singulière de manière synchronique. En effet, donc, il s'agit d'étudier la présence au sein d'un artefact donné de forme relevant au départ de médias différents. Et donc, le niveau minimum d'intégration d'un média à un autre, c'est la référence ou la citation. Par exemple, le titre d'un film ou un extrait de dialogue peut être mentionné, explicitement ou non, dans un roman, et on peut considérer cette forme comme intermédiale. Bon, c'est surtout le regard porté par le chercheur qui la constitue en tant que telle. Et en effet, en identifiant des effets de sens spécifiquement produits par cette intégration, le chercheur propose une interprétation intermédiale. Bon, alors cet effet de référence, je voudrais m'arrêter 2 secondes pour vous parler, bon, alors il est un peu tard, mais pas trop, pour vous parler un peu de littérature quand même. Vous parlez d'un texte relativement contemporain, bon, je crois qu'il est publié en 2007, si je me souviens bien, de Pierre Michon, qui s'appelle Les Onze. Je ne sais pas si vous connaissez ce texte. Qu'est-ce que c'est que Les Onze? C'est un récit en 2 parties qui raconte l'histoire d'un tableau. Et l'histoire d'un tableau sous la terreur. Et ce qui est intéressant dans ce récit, c'est que pour commencer, il nous présente le peintre. Sauf que au fur et à mesure qu'il nous explique qui est ce peintre, et qu'il nous dit d'ailleurs, il est représenté à tel endroit, en Europe, au plafond de tel château, très loin, etc. Donc évidemment, à la fois, on se dit, bon, bah, alors on est à 2 doigts de voir ce peintre, et donc de voir à quoi il ressemble, et en même temps, bah, ça s'éloigne au fur et à mesure, parce qu'il faut quand même faire des kilomètres pour y aller, etc. Et tout ça pour finir par dire, en réalité, le peintre qui a représenté le jeune peintre, dont c'était sa version enfant, en fait, il a pris un type connu à son époque, donc c'est plus tellement le peintre dont il est question, à la fin, on se rend compte que c'est juste une typification de portrait d'enfant, et c'est pas le peintre du tout. Voilà. Et donc, ce que je veux dire, c'est qu'au fur et à mesure, et donc c'est exactement le traitement qu'il va faire subir aussi au fameux tableau qu'il intitule Les Onze. C'est-à-dire qu'il nous le décrit, il nous dit où il est au Louvre, il nous explique beaucoup de choses, les conditions de sa création, etc. Et au fur et à mesure qu'on s'approche, eh bien, il nous fait, c'est un peu le supplice de Tantale, c'est-à-dire qu'en fait, il s'éloigne au fur et à mesure. Et donc, plus on s'en approche, moins on le voit. Et en fait, on le voit jamais. Voilà. Et donc, il va jouer, bien sûr, avec le lecteur, et il s'applique à refuser la visibilité et du peintre et du tableau au fur et à mesure qu'il nous donne davantage d'éléments, au contraire, pour le percevoir. Alors, bien sûr, il va le décrire de façon différente, sous divers angles, sous diverses luminosités, enfin, tout ce que vous voulez. Et au total, on n'y voit rien, comme dirait Daniel Arras, hein, on n'y voit rien, délibérément. Et ce qui est intéressant, et ce pourquoi, je, à titre de référence ou d'inter-iconicité, je vous parle de ce texte, c'est que finalement, j'ai envie de vous dire, tout dépend dans ce texte de la compétence du lecteur et de la façon qu'on a de saisir les références au vol. Parce qu'en réalité, finalement, si vous voulez, c'est comme le mythe. Le mythe, il peut être contradictoire dans toutes les variantes qu'on en a, parce que simplement, chaque auteur s'en empare et en fait ce qu'il veut. Et forcément, il ne se donne pas pour objectif d'être cohérent avec un auteur latéral ou connexe ou voisin ou antérieur, s'il fait simplement ce qu'il veut. Comme tout à l'heure, je vous parlais de Robe grillée avec la Gradiva, il en a fait ce qu'il voulait, lui. Voilà. Et donc, nous, en fonction de notre compétence, on va voir, par exemple, à un moment donné, le motif de Suzanne Aubin. Et donc, on va répertorier dans notre esprit les quelques références qu'on a picturale de Suzanne Aubin, qui ne vont pas correspondre forcément avec la scène que nous décrit Pierre Michon dans son texte. Et donc, on a une sorte de prolifération de représentations. Évidemment, il joue là-dessus, lui. Et son idée, probablement, c'est de jouer avec nous. On a ce côté ironique de l'auteur qui est manifeste et qui fait que plus on essaie de saisir les choses et de les comprendre, plus elles s'éloignent et jusqu'à rendre peut-être le lecteur fou. C'est-à-dire plus on croit, même d'ailleurs à commencer par Les Onze, on a aussi des représentations qui peuvent nous venir à l'esprit. Moi, j'en ai eu. Hein. Et non, c'est jamais la bonne. Hein. Voilà. Et donc, au fur et à mesure, on a des variantes et des variantes et l'original se perd. Et le meilleur exemple de ce principe, c'est qu'à un moment donné, il va évoquer un tableau connu qui représente, je ne sais plus le titre d'ailleurs, enfin le moment de la Révolution au jeu de paume, donc une signature célèbre, bon bref. Et donc il nous explique que là-haut, il y a tel personnage historique qui tourne le dos, qui est en train de lire le journal et qu'on peut repérer vraiment alors à la loupe. Et le fait est qu'il explique comment finalement ce personnage lit le serment du jeu de paume, voilà. Pardon. Et donc, il explique comment ce personnage lit un journal dont on peut identifier le titre. Et en fait, le journal a été créé postérieurement à la signature du jeu de paume. C'est-à-dire, autrement dit, c'est un anachronisme, mais ça rend invalide soit la totalité du tableau, soit il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Donc, voilà, c'est difficile de citer un journal qui n'existe pas encore, autrement dit. Voilà. Donc, il joue constamment, si vous voulez. Et donc, cet effet de référence, il est manifeste et majeur dans un texte comme celui-ci, donc de Pierre Michon, qui manifestement joue avec son lecteur. Et plus on est compétent, plus il joue. Moins on est compétent, plus on passe et on se contente simplement du constat qu'on est en train de louper, mais délibérément et du fait du narrateur, tout simplement. On est en train de louper ce qu'il est en train de nous montrer, mais il le fait exprès. Et plus on est compétent, et plus on le loupe encore. C'est-à-dire, voilà, au lieu de mieux voir, on voit encore moins bien. Voilà. Et donc, voilà, donc cet effet, donc cette fois-ci, de coprésence et de référence, j'espère que je vous l'ai rendu un peu plus sensible. Bon. Bon, un autre exemple, alors cette fois-ci dans le film, c'est un documentaire qui s'intitule « Cheminots » en 2009, de Luc Joulet et Sébastien Jousse. Là aussi, vous avez des extraits sur Internet, si vous voulez. Donc, un documentaire sur des employés de chemin de fer. Et à un moment donné, ils sont filmés en train de regarder en groupe le film de fiction de Ken Loach, qui s'appelle « The Navigators » de 2001. C'est un film militant qui porte sur les conditions difficiles de la privatisation du rail en Angleterre. Alors, il est possible de se concentrer évidemment sur le message politique que le réalisateur cherche à transmettre en proposant ce face-à-face entre syndicalistes français dans le documentaire et anglais dans la fiction. Mais il est aussi possible de faire porter l'analyse sur le caractère médiatique de ce face-à-face, en faisant appel à ce qu'on appelle une métalepse, hein, c'est-à-dire une transgression de milieu narratif, de niveau narratif. C'est ce que vous avez régulièrement, par exemple, dans, je sais pas, alors au cinéma, évidemment, c'est un secteur privilégié pour ça. Je sais pas, La Rose pourpre du Caire, par exemple, de Woody Allen. Vous avez Mia Farrow qui va tomber amoureuse d'un personnage sur un écran, et l'écran va sortir de l'écran. Le personnage sort de l'écran pour dialoguer avec Mia Farrow. C'est ce qu'appelle une métalepse, c'est-à-dire une transgression de niveau narratif. Alors, normalement, on ne va pas entrer en dialogue dans la vie réelle avec un personnage fictif, évidemment. Voilà. Donc là, évidemment, c'est la même chose. Alors, une approche intermédiaire d'ici, donc en gardant cet exemple, va s'interroger plutôt sur les implications du dispositif filmique proposé et va viser à saisir l'effet provoqué par l'intégration d'un écran de projection dans le film. Et The Navigators, ici, est diffusé à l'aide d'un vidéoprojecteur. Et une telle approche tentera par ailleurs de discerner ce qui relève du temps de tournage, donc la place de l'opérateur, le choix de cadrage, le point de vue, etc., et celui du montage. Ici, c'est le choix d'un montage de champ et contre-champ. Et il est possible notamment de remarquer que si le film diffusé au cheminot est sous-titré en français, le son qui est entendu par le spectateur du documentaire est lui aussi en français et non pas en anglais. Donc de nouveau, un petit effet de métalepse. Bon. Il y a donc montage, autrement dit, hein, de la piste son. Et les conséquences de ce choix peuvent être interrogées, bien sûr. Ce sont les relations entre les différents médias mobilisés dans la production culturelle étudiée ici, qui est un film, qui sont questionnés pour renouveler l'approche de ce type de forme. Voilà. Et donc, l'extension maximale de cette notion de coprésence est atteinte quand le niveau d'hétérogénéité maintenu entre les formes conduit à ce que l'artefact produit ne soit plus assignable à un média particulier. On peut utiliser des néologismes qui associent plusieurs médias. C'est particulièrement symptomatique de cette tendance. Alors, c'est un horizon d'attente puisque la forme reste le plus souvent assignable à un média. Mais par exemple, on peut parler, bon, vous savez bien, hein, vous le faites vous-même, de romans graphiques, de ciné-concerts, qui est le résultat de tels rapprochements. On peut encore évoquer le théâtre d'objets, tel qu'il est développé par une compagnie hollandaise qui s'appelle Hôtel Moderne, qui articule le théâtre et le cinéma. Et notamment, il y a cet exemple fameux dans leur production qui s'appelle donc un spectacle qui est intitulé « La Grande Guerre ». Vous avez des personnages qui sont représentés par des miniatures et qui sont déplacés manuellement et en direct sur un terrain d'opération militaire reconstitué en taille réduite dans une salle de spectacle. Donc les spectateurs assistent à la fois à ces actions et à leur projection en direct sur un écran géant qui est placé à l'arrière-plan. Et la troupe joue en fait sur un grand décalage entre les images et les sons illusionnistes et les événements scéniques triviaux comme des acteurs qui jouent avec quelques figures. Donc là, il y a une forte intrication entre le dispositif scénique du théâtre et celui de la projection, qui est plus de l'ordre cinématographique. Voilà. Alors, bon, là aussi, je pourrais citer un autre exemple qui est celui d'une metteur en scène contemporaine, qui est Cathy Mitchell. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Cathy Mitchell, mais bon, elle a notamment, en adaptant, alors c'est plutôt sa grammaire scénique ici qui est en cause, parce qu'après, donc, ça répond aussi à un autre cas de figure qui est celui d'adaptation dont je vais vous parler aussi, mais elle a adapté un roman de Sebald qui s'appelle Les Anneaux de Saturne. Et ce qui est intéressant dans son travail, c'est que, alors d'une part, alors il y a des acteurs sur scène qui ne sont pas vraiment des incarnations de personnages, en l'occurrence, qui ne sont pas du tout en fait, mais qui sont surtout des bruiteurs. Et donc ce qu'elle nous montre là, c'est du son, c'est du bruit. Elle reconstitue l'imaginaire et l'état nostalgique d'un narrateur qui développe une pensée un petit peu suivie, enfin marabout, bout de ficelle, celle de cheval, comme ça, et puis, par association d'idées, qui traverse les époques, qui traverse les genres, qui traverse un petit peu les pays, et qui se remémore des mondes perdus. Et ce qu'elle nous restitue globalement, ce sont des mondes perdus, effectivement, pour nous montrer, encore une fois, non pas, comment dire, non pas des incarnations et des personnages psychologiques, mais des acteurs du bruit. Et le texte lui-même est devenu partie prenante de cette grande partition du bruit, puisqu'ils vont aussi bien, et d'une voix blanche, dire des extraits du texte, les uns ou les autres indistinctement, homme ou femme, pour dire des extraits du texte. Et pendant que tout ceci a lieu, il y a des vidéastes qui sont sur scène et qu'on voit particulièrement bien, qui ne sont pas du tout masqués, et avec des écrans au-dessus de la scène. Et donc on a cette interaction, c'est pour ça que je parle de ce dispositif, entre ce qui se passe sur scène et qu'on peut tout à fait considérer comme au théâtre normalement, et ce qu'elle saisit par la caméra et qui est projeté ou non, parce qu'elle est aussi capable de faire des interactions entre l'image en direct, mais évidemment l'image produite par la caméra n'est pas ce qu'on voit nous en direct, on fait d'autres sélections mentales forcément, ou alors des vidéos préalables ou des photographies préalables avec lesquelles elle jongle. Donc il y a un dispositif en réalité très complexe, qui est extrêmement intéressant et sophistiqué finalement, sur lequel elle joue assez constamment dans ses spectacles. Cette grammaire scénique, elle est particulièrement intéressante et riche. Bon, voilà. Bon, entre toutes ces extrêmes, entre la citation, la relative indistinction, donc de multiples formes d'hybridation voient le jour. Donc Jean-Marc Larue, dont je vous parlais tout à l'heure, va s'intéresser, lui, par exemple, à la présence de phonographes sur les scènes ou dans les coulisses des théâtres du début du XXe siècle. Il dit « L'hypothèse centrale pour une telle analyse, c'est que les représentations que chaque média donne des autres, par exemple comment le cinéma met la télévision en fiction et inversement que devient le cinéma à la télévision, sont porteuses d'une valeur heuristique à expliciter. » Bon, là aussi, bon, je vais passer parce que, évidemment, à chaque fois, j'ai des tas d'exemples qui me viennent à l'esprit. Bon, passons. Voilà. Mais c'est intéressant parce que même, par exemple, dans le domaine de la danse, hein, certains chorégraphes, et je pense à Rachid Douramdane qui vient d'accepter la direction de Chaillot, là, qui a fait un de ses premiers spectacles, où il faisait une sorte de critique de l'image télévisuelle, justement, en dénonçant, c'est-à-dire en expliquant ou en démontant la fabrique de l'image télévisuelle devant nous. Et donc, effectivement, bon, ça, c'est quelque chose qui, pour l'intermédialité, est particulièrement intéressant. Alors, de nouveaux formats, évidemment, vont émerger à partir de ces agencements. Alors, on peut parler en termes de chevauchement, d'enchevêtrement ou même de friction. Voilà. Et donc, la recherche menée par Jean-Marc Larue permet de souligner que ces études ne portent pas seulement sur les rapports entre différents arts, qu'on appelle aussi interartialité, et les deux démarches sont assez proches, évidemment. Et puis, on peut noter que la présence d'un média dans un autre est dit, bon, comme on fait d'ailleurs pour le texte intratextuel, on parle d'intramédiatique, voilà, quand la production intégrée dans l'artefact relève du même média. Et il arrive souvent, par exemple, qu'une citation extraite d'un livre soit rapportée dans un autre livre. Et un autre exemple très, très connu, c'est celui du tableau de Velázquez, Les Ménines, hein, qui intègre à son arrière-plan d'autres tableaux. Mais bon, là aussi, on a une multitude d'exemples. Et donc, dans ce cas, on peut aussi parler de transmédia. Alors vous allez me dire, oh là là, transmédia, qu'est-ce que c'est ? Bon, alors ça, c'est une proposition déclinée dès le départ sur différents médias. Et par exemple, voilà, donc l'exemple est toujours plus parlant, en 1999, Matrix est en même temps un film, une bande dessinée, un jeu vidéo et un roman graphique. Voilà. Et donc là, évidemment, on va parler de transmédia. Elle est utilisée notamment parce qu'elle permet de dépasser l'idée de produits dérivés à partir d'une œuvre source qui n'est plus adaptée à l'étude des formes produites par les industries culturelles contemporaines. Et vous commencez à voir pourquoi l'intermédialité est intéressante, c'est qu'elle nous permet de réfléchir dans des termes propres les formes qui surgissent dans notre monde contemporain et peut-être d'être plus adaptée aussi aux nouvelles pratiques et aux nouvelles formes qui apparaissent aujourd'hui. Voilà. Donc les transferts. Donc à la différence de la notion de coprésence qui conduit à adopter un point de vue synchronique, la notion de transfert nécessite la prise en compte d'un décalage temporel, donc c'est ce qu'on appelle la diachronie. Voilà, donc il s'agit de transport de matériaux ou de technologies d'une culture à une autre, d'un média à un autre. Donc le transfert, il est moins de l'ordre de la présence que de celui du processus ou encore du passage. Et donc, on est conduit à s'intéresser sur les modes de passage d'un type de média à un autre. Et donc, la forme canonique de transfert, c'est l'adaptation. Voilà, à partir de là, évidemment, donc le transfert, l'adaptation. Par exemple, cette Palme d'Or de Cannes 2013, La vie d'Adèle, c'est l'adaptation d'une bande dessinée. Le bleu est une couleur chaude de 2010. Voilà. Donc c'est très contemporain, hein. On est à 3 ans près, mais on a ce fameux transfert. Voilà. De même, il arrive souvent qu'un livre soit adapté au théâtre. Ça, c'était le cas que je viens de citer, par exemple, de Cathy Mitchell, mais il y en a tant d'autres, évidemment, hein, qui adaptent n'importe quel livre sur scène, bon. Ou qui donnent lieu à la conception, par exemple, d'un jeu vidéo. Et parfois, ces adaptations sont intramédiatiques, comme dans le cas d'un remake au cinéma, ou au contraire, elles peuvent parcourir plusieurs médias, comme dans le cas d'un roman, qui donne lieu à une pièce de théâtre qui est ensuite adaptée sous la forme d'un téléfilm. Par exemple, le roman « Au cœur des ténèbres » de Joseph Conrad a été l'objet de plusieurs films, dont « Aguirre » ou « La colère de Dieu » de Werner Herzog, d'une bande dessinée « Congo » de Christian Périssin et Tom Tirabosco, et récemment d'un jeu vidéo. Voilà. Bon, moi, je ne suis pas très versée en jeu vidéo, mais évidemment, c'est un pan important de la création aussi aujourd'hui. Voilà, donc le réemploi et le recyclage sont des modes opératoires qui sont régulièrement mobilisés. Et donc, par exemple, la manière dont le réalisateur allemand Wim Wenders fait référence au tableau de Edward Hopper dans toute une série de road movies peut être étudiée dans ce cadre-là. Et un jeu de miroir déformant où l'implicite prend régulièrement le pas sur l'explicite se met en place. Et donc, pour Wim Wenders, il s'agit moins de proposer des reconstitutions que des appropriations visant à retrouver quelque chose de l'atmosphère créée dans les œuvres du peintre. Voilà, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne s'agit pas de prendre telles quelles les choses, mais de se les réapproprier à sa main, évidemment, pour développer son propre univers. Voilà. Bon, alors... On va, dans cet ordre d'idées, donc porter une attention toute particulière à ce qui change lors du passage d'un média à l'autre. C'est-à-dire que ça permet de désigner le fait qu'une même histoire de départ ne sera pas mise en récit de la même manière si elle est adaptée au cinéma, au théâtre ou pour un spot publicitaire. Et pour vous donner un exemple, peut-être plutôt dans les arts plastiques, vous avez un artiste plasticien qui s'appelle Tino Segal, qui a, par exemple, produit une œuvre qui s'appelle The Kiss, et où il demande donc il les forme évidemment à des gens qui ne sont pas spécialement des acteurs, de s'installer donc dans un lieu de passage, dans un musée, et de reproduire des tableaux connus, célèbres, qui représentent le baiser. Et évidemment, si vous voyez le verrou de Fragonard, ou si vous voyez des gens en face, ou bien, je ne sais pas moi, par exemple, Roncusi, hein, le baiser, donc deux personnes qui s'embrassent, ce n'est pas du tout la même chose de se poser devant un tableau, ou bien de regarder deux personnes qui s'embrassent dans la vie, en trois dimensions, devant vous. Là. C'est, évidemment, ça produit, disons, une perception assez différente. Bon, voilà. Alors, là-dedans, vous avez compris, il est nécessaire, du coup, dans cette approche, de s'intéresser au rôle occupé par le destinataire, qu'on évoque comme un usager ou encore un spectateur, puisque cette notion de transfert implique la prise en compte de la question de la circulation des formes médiatiques dans l'espace public. Et ça conduit évidemment à considérer non seulement les relations entre individus et dispositifs techniques, ça, c'est l'interactivité si vous voulez, mais aussi les relations entre membres d'un groupe par le moyen d'un média, par exemple les interactions ou même d'appropriation. Et voilà. Et donc, à quel moment est-il possible de parler de création ou de copie ou de réemploi, de recyclage, de citation, de reproduction, de plagiat? Hein, vous voyez que ces appropriations successives conduisent notamment à repenser l'auctorialité. Ça, c'est pas le moindre détail de cette approche. C'est-à-dire que la notion d'auteur, évidemment, est à relire et à revoir et à repenser de manière majeure. Et ça, c'est quand même, j'allais dire, quasiment une révolution. Donc, il faut prendre en compte l'idée d'un partage du geste créateur, d'une transformation de la notion même de signature. Alors, il y a également l'émergence. L'émergence, c'est placer donc au centre le média en tant que tel. On s'intéresse donc ici à la formation de nouveaux médias. Et donc l'institutionnalisation d'un média relève d'un processus lent, une vingtaine d'années pour le cinéma. Donc dans le cas du cinéma, l'émergence provient notamment de la photographie, de la chronophotographie, de la lanterne magique, de la projection lumineuse, ça c'est l'approche diachronique, donc dans le temps, et il s'articule au début du XXe siècle avec d'autres, et entre autres le café-concert, qui est nouveau à l'époque, le théâtre d'ombre, les sketchs magiques, la féerie, les arts du cirque, le théâtre de variété, la pantomime. Tout ceci est contemporain, et évidemment ce ne sont que des formes modernes, que des formes contemporaines. Et donc évidemment le cinéma s'inspire de tout ça, hein. Je vous rappelle par exemple, comment s'appelle-t-il, le voyage dans la Lune, là, Méliès, merci, voilà, cette espèce de grand magicien, évidemment, qui intervient au tout début de la création et de la naissance du cinéma. Et bon, bah, il va, par exemple, être une influence majeure pour un plasticien formidable chez nous aujourd'hui, qui est Pierrick Sorin, par exemple. Voilà, donc le burlesque, l'autodérision, etc. Bon. Voilà, un autre exemple, c'est le carnet de voyage, qui se situe entre la bande dessinée, l'album de photographie-reportage, le journal intime filmé, le roman graphique, l'adaptation animée, le reportage graphique, le storyboard, le livre d'artiste. Vous voyez qu'on a des configurations comme ça extrêmement importantes. Et je me dépêche de finir. Donc le milieu, dernière notion de l'intermédialité. Et donc là, on place au centre du dispositif intermédiatique l'usager, c'est-à-dire on s'intéresse à ce qui rend possible des échanges entre les membres d'un groupe. Et donc à la base, l'idée, c'est qu'en déplaçant son regard du contenu d'une inscription sensible à la forme prise par celle-ci en fonction d'un contexte, puis aux relations entre ces formes, on peut dégager de nouvelles interprétations qui concernent la manière dont nous communiquons et vivons ensemble. Et donc le média acquiert alors une dimension politique au sens où il participe à l'organisation de la vie de la cité. C'est ce qui rend possible le déroulement d'une expérience partagée. On va donc considérer des formes complexes constituées d'une inscription sensible particulière, une lettre, un livre, un texto, un film, une BD, un site internet, qui prend forme sur un support médiatique, pierre, papier, écran, ce que vous voulez, et qui prend place dans un milieu, justement. Donc une société donnée avec ses normes et à un moment précis. Et donc cette acception conduit à penser le média comme un espace à la fois très concret et imaginaire que les membres du groupe mis en relation habitent. Donc l'intermédialité marque là le passage d'une théorie de la société qui contient les médias, c'est une conception généralement établie de nos jours, à une théorie où les sociétés, les socialités, les médias se co-construisent et se détruisent en permanence. Et donc ce renversement, il est fondamental parce qu'il nous permet de penser notre société, de nous penser nous, dans nos nouveaux fonctionnements, avec les nouveaux outils qui sont à disposition. Donc il est question là d'appréhender des agencements, des systèmes complexes de relations qui sont constitutifs d'un ensemble, d'un intermédia justement. Et le préfixe inter désigne ici le fait d'étudier ce qui advient entre les trois aspects du média, l'inscription sensible, le support et le milieu. Voilà. Alors par exemple, on peut analyser un film qui s'appelle César doit mourir, des frères Taviani, qui date de 2012, en faisant usage de ces notions d'inscription sensible, d'environnement et de support médiatique, puisque dans ce docu-fiction, des détenus d'une prison de Rome répètent un texte de Shakespeare qui rencontre alors une expérience personnelle et les transforme. Un autre exemple classique connu, c'est Marassade, qui a été mis en film par Peter Brook, qui était un spectacle présenté par Peter Weiss, qui est le père, je dirais, du théâtre documentaire, et où on a justement ce mélange entre une expérience artistique traversée par des gens qui sont dans un milieu et un contexte tout à fait spécifique. Hein. Donc c'était les fous de Charenton pour Marassade. Donc ici, il s'agit de prisonniers. Il s'agit donc d'appréhender ce qui se passe quand la mise en scène et la captation de relations humaines ayant lieu dans un espace public déterminé donc se produit. Donc la forme film n'est plus considérée de manière autonome. Elle s'inscrit fortement dans un espace public qu'elle transforme, aussi bien pour le groupe qui participe à sa réalisation que pour les personnes qui le visionnent. Et on peut, de ce point de vue, reparler du film Cheminot que j'évoquais tout à l'heure, ou de la bande dessinée La couleur bleue est une couleur chaude, et de la pièce de théâtre La Grande Guerre, qui sont susceptibles aussi d'être étudiées et étudiées de cette manière. Donc on retrouve bien ici cette idée d'intermédialité comme observation nécessairement participante d'un milieu. Voilà. Pardon hein, pour toute cette lourdeur théorique, et je vous remercie beaucoup pour votre patience. Voilà. Donc si vous avez deux questions ou une question et demie, parce que je vous ai pas laissé beaucoup de temps malheureusement. Alors. C'est-à-dire, en fait, j'ai envie de vous répondre, c'est pas moi qui les associe. Le problème, alors moi je suis universitaire, bon, les critiques d'art c'est un peu la même chose. J'allais dire, on court après ce qui se passe. En fait, la création c'est le moment de présenter des formes, de les renouveler, de les construire. La création, elle inclut les médias fortement. Et c'est pas un hasard si c'est quelqu'un comme Jean-Marc Larue, qui est canadien, hein, je vous l'ai dit, qui est le grand spécialiste de l'intermédialité pour le théâtre, c'est que la société canadienne, anglo-saxonne d'une manière générale, bon, tant pis pour les susceptibilités linguistiques, bon, sont très en avance sur le plan justement de l'informatique, du numérique, etc. Et les moindres compagnies ont à disposition des outils de ce type. Et donc, forcément, tout ce qui concerne les médias, sont partie prenante. Aujourd'hui, on peut vraiment pas en faire on peut pas les évacuer. C'est un matériau. Comme je vous l'ai dit, pour le début du XXe siècle, on avait un nouveau matériau. Je l'ai fait à dessein, qu'était le bruit. On n'avait pas pensé jusque-là que le bruit pouvait être un matériau artistique. Et là, tout d'un coup, si. Et c'est assez formidable parce que ça ouvre un champ de création. Alors, les gens reprennent ça au vol ou pas. Les artistes suivants en sont les héritiers volontaires ou passifs ou actifs, mais même pour Kandinsky. Donc ce qui se passe immédiatement après, peu importe, mais ça peut être des dizaines d'années après, mais en tout cas le champ est ouvert. Et une fois que le champ est ouvert, c'est comme ça. Aujourd'hui, on ne fait pas sans les médias, forcément. Et quand je vous parlais de Rachid Ramdan qui fait un spectacle, un de ses premiers spectacles, hein. Donc c'est un jeune homme qui fait ça et qui démonte littéralement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire par exemple qu'il va nous présenter dans un écran un personnage à la Gainsbourg qui chante une chanson extrêmement connue, qui est très séduisante, tout ça dans un écran. Alors il est un petit peu une sorte de rocker mal rasé, comme ça, avec des cheveux blancs ou poivre et sel, avec un perfecto, etc., des fumées alentour, voilà. Et donc la chanson se passe et tout va bien. Et puis ça s'éteint. Et à ce moment-là, vous avez le rideau rouge en fond de scène qui s'écarte. Et le même personnage qu'on voyait dans l'écran, on le voit devant nous, dans une lumière assez crue. Donc cette fois-ci, il n'y a plus d'effet esthétique. Et là, on a envie de dire que quasiment, excusez-moi, que c'est un pauvre type. C'est-à-dire qu'il a perdu toute son aura. C'est plus rien du tout. C'est juste un type qui est mal rasé, qui n'a aucune allure, qui n'a aucune dimension, qui a perdu toute son aura. Et c'est la construction de l'image qui a fait la totalité du personnage. Et la personne elle-même, ben, c'est rien de tout ça. Et donc, évidemment, c'est brutal, mais ça dit quelque chose d'extrêmement intéressant. Moi, ça m'a beaucoup réjoui à l'époque où j'ai vu ça. C'était en 2002, enfin, au début des années 2000, je ne sais plus. Voilà. Et donc, c'est intéressant parce que ça permet de dénoncer cette grammaire de l'image télévisuelle. Donc, les médias, ils sont partie prenante, absolument. Tout ce qui est de l'ordre de l'image, ça nous concerne dans la culture. Et on ne peut pas dire que les médias n'y sont pas, bien sûr. Ouais. Ah. Voilà. Oui, moi je suis disponible, je suis encore là pendant un petit moment, donc n'hésitez pas. Voilà. Je vous remercie beaucoup.